Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission annuelle pour les séminaires et instituts de religion depuis le centre de conférence de l'Église à Salt Lake City. Je suis Jason Willard et je suis administrateur adjoint des séminaires et instituts de religion. Nous sommes reconnaissants que se joignent à nous Donald Alstrom, membre de la présidence des 70 et du bureau d'éducation de l'Église, sa femme Diane, et Kim Clark, des 70, qui est le commissaire du département d'éducation de l'Église. Deux autres membres du bureau d'éducation de l'Église sont avec nous aujourd'hui. Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, accompagnée de son mari Bruce, et Bonnie Oscarson, présidente générale des jeunes filles, accompagnée de son mari Paul. Nous saluons la présence sur l'estrade de Joy Jones, présidente générale de la primaire, et de son mari Ron, Tad Callister, président général de l'école du dimanche, et sa femme Cathy, Stephen Owen, président général des jeunes gens, et sa femme Jane, Mark Woodruff, assistant du commissaire et secrétaire des conseils. Sont également présents Chad Webb, administrateur des séminaires et instituts de religion, et sa femme Christy, et d'autres administrateurs des séminaires et instituts de religion avec leurs femmes. D'autres membres des présidents généraux d'auxiliaires et des invités spéciaux sont également présents dans l'assistance. Nous vous sommes reconnaissants pour l'influence que vous avez sur nous dans cette œuvre, et nous sommes heureux que vous soyez venus aujourd'hui. À vous tous, instructeurs, dirigeants et conjoints, qui regardez cette émission diffusée dans environ 150 pays et en 40 langues, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue. Nous exprimons notre reconnaissance aux différents services de l'Église pour leur soutien et leur coopération à la réalisation de cette émission. Nous commencerons cette réunion en chantant le cantique « Ô Jésus, quand je pense à toi », le numéro 76 dans le recueil de cantiques français. Daniel Ritchie, des services de formation du Bureau central, dirigera la musique. Douglas Gellman, des services du programme au Bureau central, nous accompagnera à l'orgue. Après le cantique, Frances Davis, dont le mari est directeur du séminaire de l'interrégion de l'Est de la vallée du lac Salé, fera la prière d'ouverture.
Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants de cette occasion incroyable de nous réunir afin d'être édifiés, renforcés et inspirés afin de faire notre tâche. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils bien-aimé, notre frère et sauveur, pour cet évangile glorieux. Et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir enseigner, instruire. Nous prions pour que ton Saint-Esprit soit avec nous durant cette réunion, pour ceux qui vont parler, ceux qui vont écouter, afin que nous soyons tous édifiés. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, Sœur Davis. Au début de notre réunion d'aujourd'hui, revoyons le message que le président Monson a donné lors de la dernière conférence sur l'île de Mormon. En regardant son invitation, réfléchissons à la question suivante. Que vais-je faire personnellement pour aider chacun de mes élèves à recevoir chacune de ces bénédictions promises?
I speak about the power of the Book of Mormon and the critical need we have as members of the Church to study, ponder, and apply its teachings.
Ce matin, je parle de la puissance du Livre de Mormon et du besoin crucial qui est le nôtre en qualité de membre de cette Église d'étudier, de méditer et d'appliquer ses enseignements dans notre vie. On ne saurait trop insister sur l'importance d'avoir un témoignage ferme et certain du Livre de Mormon. Nous vivons à une époque de difficultés importantes et de grande méchanceté. Qu'est-ce qui nous protégera du péché et du mal si répandu dans le monde actuel? J'affirme qu'un fort témoignage de notre Sauveur, Jésus-Christ, et de son Évangile contribuera à notre sécurité. Si vous ne lisez pas le Livre de Mormon chaque jour, je vous en prie, faites-le. Si vous le lisez dans la prière et avec le désir sincère de connaître la vérité, le Saint-Esprit vous manifestera son authenticité. S'il est vrai, et je témoigne solennellement qu'il l'est, alors Joseph Smith était un prophète qui a vu Dieu, le Père et son Fils, Jésus-Christ. Du fait que le Livre de Mormon est vrai, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l'Église du Seigneur sur la terre, et la Sainte Prêtrise de Dieu a été rétablie pour le profit et le bien-être de ses enfants. Si vous n'avez pas un témoignage ferme de ces choses, faites le nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage en ces temps difficiles, car les témoignages des autres ne vous porteront que jusqu'à un certain point. Néanmoins, une fois que vous en aurez obtenu un, il faudra le garder vivant par l'obéissance continuelle au commandement de Dieu et par la prière et l'étude quotidienne des Écritures. Mes chers compagnons dans l'œuvre du Seigneur, je supplie chacun d'entre nous d'étudier et de méditer le Livre de Mormon chaque jour à l'aide de la prière. Ainsi, nous serons en mesure d'entendre la voix de l'Esprit, de résister à la tentation, de vaincre le doute et la crainte et de recevoir l'aide des cieux. J'en témoigne de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Quelles pensées vous sont venues en écoutant à nouveau le président Monson? Si environ 75% de nos élèves remplissaient les conditions de lecture, que ferions-nous pour en encourager davantage à les lire? Comment pourrions-nous les aider de façon à ce que leur lecture les amène à vivre l'expérience que le président Monson espère pour eux? Aujourd'hui, je vous le demande, allez-vous réfléchir, planifier et tenir conseil sur la manière dont vous aiderez chaque élève à recevoir les bénédictions promises, je témoigne que nous aurons l'aide des cieux dans notre vie si nous cherchons à faire en sorte que chacun des enfants de notre Père Céleste soit béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons maintenant écouter un intermède interprété par Dallin Whale Bales, artiste interprète et ancien instructeur du séminaire. Il chantera son propre arrangement de la première prière de Joseph Smith. Son pianiste est Jared Pierce. Après le chant, nous aurons alors le plaisir d'entendre notre administrateur Chad Webb, puis Grant Anderson, notre nouvel administrateur adjoint des séminaires et instituts, s'adressera à nous. Et il sera suivi de Laurie Newbold, directrice des services de formation des séminaires et instituts. Après quoi, nous nous lèverons pour chanter le cantique « Allons avec foi », le numéro 73 dans le recueil des cantiques français.
My beloved, hear him. Oh, how sweet the word. Joseph's humble prayer was answered, and he listened to the Lord. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw the living God. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw
Thank you, Brother Bayless and Brother Pierce.
Merci, Frère Bayless.
Really beautiful.
Et Frère Pierce, c'était très beau.
For our guests who have joined with us today, for all that they do for the youth and young adults of the church, and for us as seminaries and institutes of religion. I'm also thankful to each of you.
Je suis très reconnaissant pour chacun de vous. J'ai toujours hâte d'être avec vous pour ce rassemblement important. Pour préparer cette réunion, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voudrait que nous fassions pour ces enfants qui suivent nos leçons dans nos classes et dans nos foyers. Au cours de moments paisibles, j'ai ressenti son approbation pour vos efforts infatigables et vos nombreux sacrifices. J'ai ressenti combien il se réjouit de vous bénir, vous et vos familles. J'ai ressenti sa volonté de bénir vos élèves d'un amour et d'un témoignage pour son Fils bien-aimé. Et cela ne peut pas s'accomplir uniquement par des formations, des technologies ou des programmes, fussent-ils meilleurs ou plus nombreux, car rien de tout cela ne remplacera jamais le toucher miraculeux des cieux dans la vie de nos élèves. Ce que nous espérons ne viendra que comme un don de notre Père Céleste. Et sa puissance sera indispensable pour que des miracles s'accomplissent dans leur vie. Il nous faudra faire preuve d'une plus grande foi, car la foi précède toujours les miracles. Dallin Oaks a dit « La foi sans les œuvres est morte », puis il a ajouté « Les œuvres sans la foi le sont encore plus ». En d'autres termes, tout notre dur labeur ne produira pas les résultats souhaités s'il est accompli sans foi. Et cela parce que la foi est un principe d'action et de pouvoir. Une foi collective plus grande sera un signe pour le Seigneur que nous comptons sur lui et que nous nous fions à son pouvoir d'inspirer, de convertir, de fortifier, de préparer et de protéger la génération montante. Une plus grande foi en notre Sauveur renforcera notre enseignement, nos invitations aux jeunes et aux jeunes adultes à suivre les cours ou à lire les Écritures, et même nos relations avec les parents et les dirigeants de la prêtrise. Alors, pendant les semaines et les mois à venir, voulez-vous vous joindre à moi pour demander une plus grande foi à notre Père Céleste? Notre Père Céleste est prêt à nous aider si nous demandons. Joseph Smith a enseigné que pour exercer notre foi en Dieu, nous devons avoir une idée exacte de sa personnalité, de ses perfections et de ses qualités, ainsi que la connaissance véritable que le cours de la vie que nous suivons est conforme à sa volonté. Ces deux impératifs nécessitent que nous utilisions notre foi comme principe d'action. Lors de la dernière conférence générale, Russell Nelson a mentionné un moyen qui nous permet de nous approcher de la première de ces deux conditions requises. Plus nous en savons au sujet du ministère de la mission du Sauveur, plus nous comprenons sa doctrine et ce qu'il a fait pour nous. Et plus nous savons qu'il peut nous procurer le pouvoir dont nous avons besoin dans notre vie. Au début de l'année, j'ai demandé aux jeunes adultes de l'Église de consacrer chaque semaine une partie de leur temps à l'étude de tout ce que Jésus a dit et fait, tel que cela est rapporté dans les ouvrages canoniques. Je leur ai suggéré de faire des passages scripturaires relatifs à Jésus-Christ dans le guide des Écritures, l'essence de leur programme d'études personnelles. J'ai lancé cette exhortation parce que je l'avais déjà acceptée moi-même. J'ai lu et souligné chaque verset mentionnant Jésus-Christ tels qu'ils sont listés dans l'entête principale et les 57 sous-titres du guide des Écritures. Lorsque j'ai eu terminé cet exercice passionnant, ma femme m'a demandé quelle influence il avait eue sur moi. Je lui ai dit, « Je suis un homme différent. » Je voulais vous rappeler cette invitation parce que j'ai personnellement vu les bienfaits de cette étude thématique et je sais que plus nous comprenons et aimons le Sauveur, plus notre foi en lui grandit. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Joseph Smith, le prophète, a enseigné qu'un autre point important de la foi est de mener notre vie conformément à la volonté du Seigneur. Pour illustrer ce point, je vais vous faire part d'un exemple auquel les mères présentes ici pourront s'identifier. Céleste Davis est une jeune mère de 3 enfants dont le bébé se réveille souvent chaque nuit. Elle a commencé à prier pour que son bébé et elle puissent avoir le sommeil dont ils avaient besoin. Mais ses prières semblaient ne pas être exaucées. Alors elle a cherché à mieux comprendre ce qu'est la prière et pourquoi elle n'obtenait pas le soulagement souhaité. Dans le guide des Écritures, elle a appris que nous sommes vraiment capables de prier au nom du Christ lorsque nos désirs sont les désirs du Christ. Nous demandons alors ce qu'il est possible à Dieu d'accorder. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne représentent en aucune façon le désir du Christ, mais découlent plutôt de l'égoïsme de l'homme. Alors Céleste a décidé de faire de la liste des choses pour lesquelles elle avait prié. En le faisant, elle s'est rendue compte que ses prières consistaient principalement à demander à notre Père Céleste ce qu'elle voulait, ce qui revenait à lui demander de changer sa situation. Elle a alors décidé de faire une autre liste, une liste des choses qu'elle savait que notre Père Céleste voulait pour elle. Bien sûr, les deux listes n'étaient pas totalement incompatibles. Il nous aime et il veut que nous soyons heureux. Mais ce petit exercice enseigne une vérité importante. Elle voulait changer sa situation, alors que c'est elle que le Seigneur voulait changer. Elle a donc décidé de changer sa façon d'aborder la prière afin de mieux conformer sa volonté à celle de notre Père Céleste. Elle a écrit, « J'ai défini une petite formule pour m'aider dans mes prières. C'est très simple. Chaque fois que vous demandez quelque chose que vous voulez, mais que vous n'êtes pas sûr que ce soit ce que Dieu veut pour vous, ajoutez les mots « mais sinon » et complétez-les par quelque chose que vous savez que Dieu veut pour vous. Par exemple, « Père Céleste, s'il te plaît, aide-moi à bien dormir cette nuit. Mais sinon, accorde-moi suffisamment d'énergie pour que je puisse être agréable et travailler dur quand même. Père Céleste, veuille bénir mon enfant pour qu'il guérisse et aille mieux. Mais sinon, aide-nous à te faire confiance et à être patient l'un envers l'autre. Père Céleste, veuille me bénir pour que je puisse m'intégrer dans mon groupe d'amis. Mais sinon, même si je me sens exclu, aide-moi à être gentille et généreuse. » Elle a ajouté, « Cela fait maintenant environ 1 an que je le fais et je peux dire que la qualité de mes prières a décollé. J'ai l'impression de connaître enfin le vrai but de la prière, qui n'est pas de négocier ce que je souhaite, mais de conformer la personne que je suis à celle que Dieu veut que je sois. Un bienfait inattendu est que je ne crains plus les situations difficiles ou le fait de ne pas obtenir ce que je veux aussi souvent que j'en avais l'habitude, parce que j'ai vu que Dieu répondait à la fois à mes prières, à mes attentes et à mes sinon. L'expérience de Céleste nous donne un modèle qui peut nous aider dans nos prières et nos efforts pour utiliser notre foi comme principe d'action. Pour être clair, la foi ne privera pas nos enfants ou nos élèves de leur libre arbitre, et elle n'enlèvera pas toutes les épreuves et les difficultés de notre vie. Mais elle peut nous aider à bien endurer et même à apprendre des situations difficiles. Elle changera également notre façon de voir nos élèves et nos enfants. Et notre façon de prier pour eux. Elle changera nos interactions dans nos classes et dans nos foyers. Elle nous aidera à rester fermes, avec espérance, bonheur et optimisme dans un monde de plus en plus sombre. Elle nous procurera des occasions de recevoir des révélations personnelles et de renforcer notre enseignement. Elle portera notre témoignage dans le cœur des personnes que nous aimons. La vraie foi élimine les justifications et nous pousse à l'introspection qui conduit au repentir, sincère, et à une progression effective. Elle nous pousse à éviter le piège d'attendre des solutions qui impliquent que notre entourage change, comme lorsqu'il nous arrive de dire « Si mes parents ou les dirigeants de l'Église me soutenaient davantage, alors les choses iraient mieux ». Cette approche ne s'appuie pas sur le Sauveur. Elle ne donne donc pas accès à son pouvoir. Elle ne produira pas le miracle dont on a besoin. Ce que nous avons et ce que nous sommes suffit pour accomplir l'œuvre de Dieu si nous avons assez de foi pour lui demander sincèrement de nous changer et de faire de nous des instruments entre ses mains. Cela reste vrai même quand nous nous sentons accablés ou que nous ne nous sentons pas à la hauteur. J'ai appris cette leçon quand je me préparais pour ma mission. J'ai toujours pensé que j'en ferais une, mais quand j'étais plus jeune, y penser me rendait nerveux. Je n'étais pas du tout à l'aise quand je parlais devant les gens. J'ai une tante qui dit qu'elle n'avait jamais vu mes yeux avant que je devienne un adolescent, parce que je marchais toujours la tête baissée en cachant mon visage. Au cours de mes études secondaires, j'ai obtenu un D en cours de théâtre, la note admissible la plus basse. J'étais incapable de me tenir devant toute la classe. Même pour lire un script préparé. Après avoir reçu mon appel en mission pour le Mexique, on a demandé à mon grand frère et à moi de faire un discours à une veillée pour les jeunes. J'ai parlé pendant 5 minutes et il a parlé tout le reste du temps. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que mon discours a été le pire jamais donné dans cette église ou dans une autre. À la fin de la veillée, de nombreux jeunes ont formé une file pour saluer mon frère. Une bonne âme a dévié légèrement de la file et m'a dit « Merci, c'était un bon discours. J'ai réellement pensé. C'est gentil, mais quel menteur. » Je suis rentré découragé et je me demandais comment je pouvais espérer faire une mission. Je ne me sentais pas à la hauteur pour enseigner l'Évangile, encore moins en espagnol, langue que je devais encore apprendre. Quelques jours plus tard, j'avais encore le cœur lourd. J'ai ouvert les Écritures et j'ai lu l'histoire d'Enoch. Et lorsqu'il fut demandé à Enoch d'appeler le peuple à se repentir, il se prosterna par terre devant le Seigneur et parla devant le Seigneur disant comment se fait-il que j'ai trouvé grâce à tes yeux alors que je ne suis qu'un jeune garçon et que tout le peuple me hait, car je suis lent à m'exprimer. Pourquoi donc suis-je ton serviteur? En réponse à ses doutes sur lui-même et à son flagrant manque de confiance en lui pour son appel, le Seigneur lui a gentiment répondu : Voici, mon esprit est sur toi. C'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Les montagnes fuiront devant toi et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi et moi en toi. C'est pourquoi marche avec moi. Nerveux, doutant de moi-même, et mal préparé pour ce qui m'attendait, je me raccrochais à ces paroles comme à une bouée de sauvetage, et pour la première fois de ma vie, je suis monté dans un avion pour aller servir à Mexico. Là, j'ai appris que, si nous le voulons, nous pouvons vraiment marcher avec le Seigneur. J'ai appris que ce qu'a dit le président Benson est vrai. Les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à Dieu découvrent qu'il peut faire beaucoup plus qu'eux de leur vie. De l'histoire d'Enoch, j'ai également appris quelque chose d'autre sur la foi. Écoutez ce qu'il est advenu de ce jeune garçon qui est lent à parler et haï du peuple. Dans Moïse 7, 13, on lit « Et si grande était la foi d'Enoch qu'il conduisit le peuple de Dieu et que leurs ennemis vinrent se battre contre eux. Et il dit la parole du Seigneur, et la terre trembla, et les montagnes s'enfuirent selon son commandement, et les rivières d'eau furent détournées de leur cours, et le rugissement des lions se fit entendre du désert, et toutes les nations furent saisies d'une grande crainte. Si puissante était la parole d'Enoch, et si grande était la puissance du langage que Dieu lui avait donné. Cela ne ressemblait pas à un garçon qui avait un problème d'élocution. Cela ressemblait à un homme de foi qui, parce qu'il marchait avec le Seigneur, déplaçait des montagnes. Parfois, nous utilisons les expressions « faire pencher la balance » ou « faire la différence » pour représenter les petites améliorations nécessaires. Mais le Seigneur ne nous demande pas de faire la différence, il nous demande de déplacer des montagnes. Il a dit « si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « transporte-toi d'ici, là ». Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » La foi dont nous avons besoin pour déplacer des montagnes, qu'elles soient littérales ou figuratives, est un autre niveau de foi, comme Todd Christofferson l'a enseigné. Ce que j'ai décrit jusqu'ici est un niveau de foi qui consiste en des assurances spirituelles et qui produit de bonnes œuvres, plus spécialement l'obéissance aux principes et aux commandements de l'Évangile. C'est une foi véritable au Christ. Il y a cependant un niveau de foi qui non seulement gouverne notre comportement, mais qui nous donne aussi le pouvoir de changer ce qui est, et de faire en sorte que se produisent des choses qui ne se produiraient pas autrement. Je parle de la foi non seulement comme principe d'action, mais aussi comme principe de pouvoir. C'est le genre de foi décrit dans Hébreux 11, qu'ont eu Enoch, Abraham, Sarah et Moïse. C'était la foi par laquelle les prophètes vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, et par laquelle des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est le genre de foi décrit dans Éther 12, faisant référence à Alma, Amulek, Néphi, Léhi et Amon. C'est la foi dont a fait preuve le frère de Jared, qui a dit à la montagne Zérine, « Déplace-toi », et elle fut déplacée. Et s'il n'avait pas eu la foi, elle n'aurait pas été déplacée. Et enfin, il y en a eu beaucoup dont la foi était tellement forte, avant même la venue du Christ, qu'ils ne pouvaient pas être gardés à l'extérieur du voile. Mais ils ont vu, en vérité, de leurs yeux. Alors écoutez cette phrase. Ils ont vu de leurs yeux les choses qu'ils avaient vues avec l'œil de la foi, et ils s'en sont réjouis. Ce sont toutes des illustrations mémorables de la foi en tant que principe de pouvoir. Mais je trouve le dernier exemple particulièrement fascinant. Ils ont d'abord vu ces choses avec l'œil de la foi avant de les voir de leurs yeux. Brigham Young en est un exemple moderne. Faisant référence à l'endroit où serait érigé le temple de Salt Lake, il a dit « Je ne dis presque jamais rien au sujet des révélations ou des visions, mais il me suffit de dire « Je me tenais là, et dans l'esprit j'ai vu le temple. Je n'avais jamais vu cet endroit, mais la vision que j'en avais eue était bien réelle. » Avoir la vision de ce qui peut se produire, de ce que le Seigneur veut, est une partie nécessaire de la vraie foi. Une fois que cette vision nous est fournie par inspiration, nous pouvons travailler, exercer notre foi pour déplacer des montagnes. Voyez-vous avec l'œil de la foi le miracle dont nous avons besoin? Vous voyez-vous en train d'enseigner des classes avec davantage de confiance au Seigneur, en sa parole et en vos élèves? Voyez-vous vos élèves quitter vos classes en se reposant davantage sur les enseignements et sur l'expiation du Sauveur? Pouvez-vous les voir plus résistants au péché et mieux préparés à tout ce que le Seigneur leur demande? Et voyez-vous avec l'œil de la foi davantage de jeunes, membres et non-membres, répondre à vos invitations à venir, à se joindre à ce miracle? Que ferait le Seigneur si nous parvenions à exercer notre foi collective, à la fois comme principe d'action et comme principe de pouvoir? Avant de conclure, j'aimerais vous donner un dernier exemple. J'ai dans mon bureau une sculpture en bois d'olivier qui décrit l'un de mes récits préférés des Écritures, et c'est un rappel constant de la nécessité d'avoir la foi. C'est une représentation de Canaan, une représentation de Caleb et de Josué que Moïse avait chargé avec des autres hommes de parcourir le pays de Canaan et de revenir lui en faire la description. Les 10 autres hommes étaient revenus disant « Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » À cause de leur manque de foi, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Nous y avons vu les géants, nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Mais Josué et Caleb ont répondu « L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Mais le peuple, comme les 10 autres messagers sans foi, n'ont pas pu voir ce que le Seigneur voulait faire et ne voulaient pas suivre Josué et Caleb. À cause de ce manque de foi, le peuple a erré 39 années de plus dans le désert. Du groupe d'origine, seuls Josué et Caleb ont survécu et furent autorisés à entrer dans la terre promise. Vous vous rappelez peut-être les célèbres paroles de Caleb quand Josué et lui se tenaient sur le mont Hébron, ce même endroit qu'ils avaient cherché tant d'années auparavant. Caleb dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Donne-moi donc cette montagne. » Grâce à sa foi, sa famille et lui héritèrent de cette montagne dans la terre promise pendant des générations. Des défis nous attendent. Nous pouvons être tentés de douter et de faire un mauvais rapport plein de craintes et de doutes. Ce manque de confiance au Seigneur ne nous mènera pas à la terre promise. Comme Caleb et Josué, nous devons chasser nos peurs et exercer notre foi pour prétendre aux bénédictions qu'il a préparées pour nous. Nous devons voir chaque épreuve ou difficulté que nous avons dans la vie comme une occasion de faire grandir notre foi en Jésus-Christ. Que ferait le Seigneur si tous ensemble nous remplacions la crainte et le doute par l'espoir et la foi? Je pense qu'il ne se contenterait pas de faire la différence, mais qu'il déplacerait des montagnes pour que des miracles se produisent dans la vie des jeunes et des jeunes adultes de l'Église. À mesure que votre foi grandira, la foi de ceux que vous instruisez grandira aussi. Je sais que notre Père Céleste vous bénira et qu'il bénira nos élèves si nous exerçons notre foi en son Fils parfait, le Sauveur, le Rédempteur et Libérateur du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a 2 ans, notre commissionnaire Kim B. Clark nous a parlé de l'histoire des anges et des enfants encerclés de feu dans le troisième Néphi. Il nous a enseigné, nous aussi, en tant qu'instructeurs, nous devrions être encerclés par ce saint feu. Comme vous le savez, il existe un autre passage du livre de Mormon où des individus ont été entourés de flammes célestes. Léhi et Néphi avaient été jetés en prison, et le passage dit « Ils étaient comme au milieu d'un feu embrasé. Et voici, le Saint-Esprit de Dieu descendit du ciel, et ils furent remplis comme de feu. » Le passage dit également « Ils étaient remplis de cette joie qui est ineffable et pleine de gloire. » Aujourd'hui, mon message est le suivant. En tant qu'instructeur, nous devrions non seulement être encerclés de feu, mais également remplis de joie. Les élèves doivent apprendre le plan du bonheur dans nos salles de classe, mais ils doivent également voir en nous la preuve que ce plan fonctionne et que vivre l'Évangile apporte la joie. Dans son rêve de l'arbre de vie, Léhi fait signe aux membres de sa famille de venir prendre du fruit qui était désirable pour rendre heureux. Son invitation était puissante et sincère, car il parlait par expérience. Il avait lui-même pris du fruit et ressenti cette joie. Gordon Binkley a dit « Il est très important d'être heureux dans cette œuvre. Il y a beaucoup de personnes tristes dans l'Église, car d'après moi, elles ne comprennent pas que c'est l'Évangile de joie que nous avons. Nous pouvons obtenir la joie dont le président Binkley a parlé en recevant l'Esprit dans notre vie, puis, comme le dit l'Écriture, en vivant à la manière du bonheur. Je voudrais vous présenter quelques principes qui m'ont aidé en tant qu'instructeur de religion à vivre à la manière du bonheur. Il ne s'agit pas d'idées nouvelles ni profondes, et je vous en fais part dans le but de pouvoir aider quelques-uns à vivre et à enseigner avec plus de joie. Je ne m'adresse pas qu'aux instructeurs de profession, mais également à ceux qui, pour un temps donné, mène la vie d'instructeur appelé aux séminaires et instituts. Il y a quelques années, je suis tombé sur une citation du président Kimball qui m'a troublé. Il a déclaré « Saisissons-nous du bonheur aujourd'hui, et sachant cela, si nous ne sommes pas heureux aujourd'hui, nous ne le serons peut-être jamais. » Je me suis dit que ce n'était pas possible, Qu'en était-il de repentir dans ce cas? Si je ne suis pas heureux aujourd'hui, il n'y a rien que je puisse faire pour changer les choses. En y réfléchissant davantage, j'en suis venu à la conclusion que le message de président Kimball était le suivant. Si vous n'êtes pas heureux et croyez que vous seriez heureux si votre situation était différente, alors vous ne le serez peut-être jamais, car votre bonheur ne dépend pas de votre situation. Un auteur l'a exprimé de la manière suivante. Nous avons tendance à croire que si nous étions ailleurs, en vacances, avec un conjoint différent, un emploi différent, une maison ou une situation différente, alors nous serions plus heureux. Nous ne le serions pas. La vérité est que si vous avez des schémas de pensée destructeurs, ou si vous souhaitez constamment que les choses soient différentes, alors ces mêmes tendances vous suivront où que vous alliez. Laman et Lemuel croyaient que leur bonheur dépendait de leur situation, surtout d'une situation qui leur était agréable. En parlant de leur voyage dans le désert, ils ont dit « Nos femmes ont donné le jour à des enfants dans le désert et ont tous souffert sauf la mort. Il aurait été mieux valu pour elles qu'elles fussent mortes avant de sortir de Jérusalem que d'avoir souffert ces afflictions. Voici ces nombreuses années nous avons souffert dans le désert, temps pendant lequel nous aurions pu nous réjouir des possessions et du pays de notre héritage, oui, où nous aurions pu être heureux. J'ai appris que mon bonheur ne dépend pas de l'endroit où j'habite, de la tâche qui m'est assignée, des personnes avec qui je travaille, des élèves que j'ai, ni des occasions qui ne se sont pas présentées à moi. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une bonne attitude balayera vos difficultés et remplira votre vie de soleil. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons peuvent parfois être déchirantes, voire quasi insupportables. Mais je vous rends témoignage que même dans de telles circonstances, nous pouvons bénéficier d'une perspective et d'un esprit venant des cieux qui nous permettra de vivre dans la joie. Dans un verset du livre d'Alma, nous lisons « Et tel est le récit d'Amon et de ses frères, de leur voyage au pays de Néphi, de leur souffrance dans le pays, de leur tristesse et de leurs afflictions, et de leur joie qui dépasse toute compréhension. La douleur et la joie ne sont pas incompatibles. Vous, instructeur appelé, souhaiteriez peut-être avoir un appel différent. Et vous, instructeur employé, souhaiteriez-vous peut-être qu'on vous enseigne une autre, qu'on vous assigne une autre tâche. Il n'y a pas de mal à cela, mais s'il vous plaît, rappelez-vous que votre bonheur ne dépend pas de la réalisation de ce souhait. Le bonheur est une manière de voyager, pas une destination. Si vous vivez en pensant que c'est une destination, vous risquez de ne jamais être heureux. Comment trouver le bonheur, quelle que soit notre situation? Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais j'en proposerai une qui est importante. La reconnaissance a beaucoup à voir avec le fait de vivre à la manière du bonheur. Dieter F. Uhrdorf a déclaré « Je propose qu'au lieu d'être reconnaissant pour des choses, nous soyons reconnaissants dans notre situation, quelle qu'elle soit. » Ce genre de reconnaissance transcende tout ce qui arrive autour de nous. Elle fleurit aussi magnifiquement dans les paysages glacés de l'hiver que dans la chaleur agréable de l'été. Être reconnaissant dans notre situation est un acte de foi en Dieu. La véritable reconnaissance est l'expression de l'espérance et du témoignage. Voici un autre principe qui m'a aidé à enseigner avec plus de joie. Quelques années après avoir commencé à travailler pour les séminaires et instituts, j'ai décidé de démissionner. J'avais pris cette décision parce que je pensais que je n'étais pas aussi bon que les instructeurs que je voyais autour de moi. Je voyais des instructeurs inspirants, érudits, pleins d'humour et confiants, chose que je ne voyais pas en moi. Finalement, je n'ai pas démissionné, mais j'ai continué à me demander avec insistance si ma personnalité me permettait vraiment d'enseigner et d'aider efficacement les jeunes. En parlant de notre personnalité unique, Sœur Holland, la femme de Jeffrey A. Holland, a déclaré « Notre Père Céleste a besoin de nous tels que nous sommes et tels que nous devenons. Il nous a fait différents les uns des autres afin que, bien qu'imparfaits, nous puissions accomplir ses desseins. Ma plus grande tristesse se manifeste lorsque je sens que je dois me conformer à ce que les autres font ou à ce que je pense que les autres attendent. Je suis vraiment heureuse et je me sens bien quand je suis moi-même et que j'essaie de faire ce que mon Père Céleste et moi attendons de moi. Durant de nombreuses années, j'ai essayé de comparer Pat Holland, le plus souvent calme et réfléchi, au robuste, pétillant, bavard et énergique Jeff Holland, et à d'autres personnes ayant des qualités similaires. À travers de nombreux échecs épuisants, j'ai appris qu'il n'y a pas de joie à être pétillant si ce n'est pas l'un des attributs de votre personnalité. C'est même contradictoire. J'ai arrêté de me voir comme une personne remplie de failles. Cela m'a permis d'accepter ma façon d'être, ma personnalité et de m'en réjouir. Le Seigneur a en quelque sorte affiché sur mon écran le message que ma personnalité avait été créée en adéquation avec la mission et les talents qu'il m'avait donnés. J'ai réalisé que j'avais des ressources d'énergie insoupçonnées pour être moi-même, mais qu'à l'instant où j'essayais d'imiter mon prochain, je me sentais divisé et épuisé, nageant perpétuellement à contre-courant. Quand nous contrarions le plan que Dieu a pour nous, nous privons le monde et le royaume de Dieu de ce que nous avons d'unique à offrir. Fin de citation. Dans nos efforts pour être nous-mêmes, j'aimerais faire deux mises en garde. La première est qu'en aucun cas, notre attitude ne doit refléter des pensées ou des déclarations du genre « c'est comme ça que je suis ». Russell M. Nelson a déclaré « l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de changement ». Je dois demander avec empressement à mes dirigeants quels sont les points que je peux améliorer et ce que je peux faire mieux pour m'impliquer dans l'atteinte de nos objectifs. Plus important encore, le Christ lui-même m'a demandé de lui ressembler et de devenir comme lui. Mais je ne dois pas forcément être comme l'instructeur de la salle d'à côté. Je peux, à travers ma personnalité, fortifiée par les dons de l'esprit, apporter une contribution unique à l'œuvre des séminaires et instituts. La seconde est la suivante. Lorsque je suis arrivé dans les bureaux du siège de l'Église pour commencer à travailler, notre administrateur de l'époque, Paul V. Johnson, m'a reçu dans son bureau afin de me donner quelques instructions et conseils. Entre autres choses, il m'a dit « Ne définissez pas qui vous êtes ». Pour moi, cela voulait dire que si jamais j'ai expliqué au Seigneur comment il pouvait se servir au mieux de moi pour accomplir son œuvre, j'allais limiter les occasions que j'aurais de grandir et de servir. Malheureusement, je suis tombé dans le travers contre lequel il m'avait mis en garde. J'ai essayé de faire de mon mieux dans les tâches administratives qu'il m'avait confiées, mais dans mon cœur, je murmurais. Je ne suis pas un administrateur, je suis un instructeur. Je devrais être en salle de classe, pas dans des salles de réunion. Ce fut un processus long et douloureux pour moi d'apprendre que ma volonté affirmée d'enseigner n'était en fait qu'un manteau pour couvrir mon désir de satisfaire mes envies personnelles. Passer son temps avec les élèves et les Écritures est quelque chose de très gratifiant. Passer ses journées à assister à des réunions où l'on discute des règles l'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que je travaille pour la récompense et la satisfaction personnelle, ou est-ce que je le fais avec l'œil fixé uniquement sur la gloire et les objectifs de Dieu? J'espère que vous serez plus sage que moi et que vous ne définirez pas vous-même qui vous êtes et la manière dont vous devez être employé. Un grand bonheur découle de notre soumission à la volonté du Père, comme le Sauveur l'a souvent enseigné et démontré. Cette manière de se soumettre m'amène à une autre suggestion qui peut nous aider à vivre à la manière du bonheur en tant qu'instructeur religieux. Je suis convaincu que la majorité d'entre nous veut sincèrement se plier à la volonté de notre Père Céleste. Cela devient plus difficile lorsqu'on nous demande de nous soumettre aux humains à qui le Seigneur fait appel pour diriger son œuvre, que ce soit dans une paroisse, un pieu ou au séminaire et institut. Au cours de ma carrière, j'ai connu de très bons instructeurs qui se sont offensés des actions prises par un dirigeant ou par une règle avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. Que ces injustices aient été réelles ou seulement ressenties, ces instructeurs ont gardé et nourri leur souffrance au prix de leur propre bonheur. Leur souffrance s'est souvent changée en amertume, ce qui a par la suite entraîné des controverses entre eux et les autres, en particulier avec leurs superviseurs. Neil Maxwell a écrit « La vie dans l'Église, et j'aimerais ajouter la vie au séminaire et institut, revient à connaître de nombreux dirigeants qui ne seront pas toujours avisés, matures et adroits. En fait, certains d'entre nous sont aussi bosselés et irréguliers qu'un sac de vieilles poignées de porte. » Une partie du polissage que nous subissons est le résultat d'un meulage qui entraîne nos confrontations avec les autres. Dans de telles circonstances, la patience et l'amour dégrippant sont essentiels. Je ne pourrai jamais assez souligner l'importance de la patience et de l'amour des grippants pour un instructeur. Ils sont essentiels pour trouver le bonheur et enseigner par l'esprit. Boyd K. Packer a dit, « Quelqu'un qui dit qu'il veut soutenir le président de l'Église ou les autorités générales, mais qui ne peut pas soutenir son évêque, se trompe lui-même. Celui qui ne veut pas soutenir l'évêque de sa paroisse et le président de son pieu ne soutiendra pas non plus le président de l'Église. » Le temps ne me permet pas de faire davantage de commentaires sur ce point, mais il y a un principe dans cette déclaration qui, selon moi, s'applique à tous les instructeurs et à leur relation avec ceux qui ont été appelés à les diriger. Si l'un d'entre vous éprouve de mauvais sentiments à l'égard de l'administration, envers un dirigeant, ou une règle en particulier, ou parce qu'il se sent surveillé d'un peu trop près, je vous en supplie, abandonnez-les pour votre propre bien. Le bonheur échappera toujours à ceux qui ne pardonnent pas, qui étalent leur mécontentement et qui favorisent la controverse. Et maintenant, voici ma dernière suggestion. Quelques heures avant sa mort, le Sauveur a lavé les pieds de ses apôtres, puis il leur a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Une grande partie du bonheur que nous pouvons ressentir dans la vie découle de l'oubli de soi, tandis que nous pensons aux autres et les servons. Nous, instructeurs de religion, pouvons ressentir un grand bonheur en consacrant nos pensées, nos désirs et nos efforts afin d'être une source de bénédiction pour nos élèves. En s'adressant aux instructeurs, Spencer W. Kimball a déclaré que la croissance et la progression de nos jeunes doivent être notre grande et magnifique obsession. Si notre attention devait se détourner de nos élèves pour se porter sur nos besoins, notre confort, nos accomplissements ou notre quête de reconnaissance, alors nous perdrions sensiblement notre pouvoir d'enseigner efficacement, sans mentionner la perte d'une grande partie de notre bonheur. Harry Emerson Fosdick, un pasteur protestant ayant vécu au siècle dernier, a écrit « Certains chrétiens portent leur religion sur leur dos, comme un fardeau de croyances et de pratiques qu'ils doivent supporter. Parfois, il leur pèse lourdement et ils le déposeraient volontiers, mais cela entraînerait une rupture avec les traditions anciennes, alors ils le remettent sur leurs épaules. Mais les vrais chrétiens ne portent pas leur religion, c'est leur religion qui les porte. Ce n'est pas un poids, c'est une paire d'ailes. Leur religion les élève, les guide dans les moments difficiles, rend l'univers bienveillant à leurs yeux, donne un sens à leur vie, fait de l'espoir une réalité et du sacrifice quelque chose de bénéfique. Elle les libère de la peur, de la futilité, du découragement et du péché qui asservissent l'âme des hommes. On reconnaît un vrai chrétien à sa résilience. C'est là mon espoir et ma prière pour chacun de vous, que l'Évangile vous porte plutôt qu'il ne vous pèse, que vous soyez entourés de feu, remplis de joie, et que votre bonheur incite les autres à rechercher et à trouver la source de votre joie, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est la personne la plus heureuse qui ait jamais marché sur cette terre et qu'il nous invite à le suivre en vivant à la manière du bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissante de l'occasion d'être ici aujourd'hui et d'exprimer mon amour pour le Sauveur, pour vous et pour les adolescents et les jeunes adultes que nous avons l'honneur de servir. Je me souviens du témoignage marquant que j'ai reçu du Saint-Esprit quand j'ai lu pour la première fois en tant qu'élève instructeur la déclaration suivante de Boyd K. Packer. Je crois que dans la mesure où vous vous acquittez de vos responsabilités et relevez le défi qui vous est lancé, l'image du Christ se grave effectivement sur votre visage. En fait, à ce moment-là, dans cette salle de classe, avec cette expression et cette inspiration, vous êtes lui et il est vous. La pensée d'avoir l'honneur de représenter le Sauveur dans mes responsabilités est devenue une motivation et une vérité qui ont dominé toute ma carrière aux séminaires et instituts. Au cours de la dernière soirée avec une autorité générale, Frère Gong nous a enseigné qu'une des choses qui faisait du Sauveur l'instructeur parfait était sa capacité à enseigner 5000 personnes et une seule à la fois. Il a dit, C'est le genre de miracle que nous recherchons en tant qu'instructeurs, instruire une classe entière et chaque élève individuellement. Cela requiert notre attention à l'égard des 5000 personnes et de chacune d'entre elles. Cela suppose d'aborder les questions générales ainsi que les besoins individuels. Vous êtes-vous jamais demandé comment il parvenait à faire cela? J'aimerais raconter une expérience que j'ai eue lors de ma deuxième année d'enseignement et grâce à laquelle le Seigneur m'a instruite en me permettant de comprendre ce que voulait dire le représenter dans la salle de classe. Dans l'une de mes classes, il y avait un jeune homme d'une quinzaine d'années. J'ai su dès les premiers jours que je n'aurais pas la patience de supporter sa charmante personnalité. Et j'ai eu le sentiment que ce semestre, où j'allais essayer de mettre en pratique un talent que je ne possédais pas, allait être très long. J'ai prié pour parvenir à l'aimer ainsi que tous mes élèves. Pendant la deuxième semaine de cours, au moment où ce jeune homme s'est levé pour faire la pensée spirituelle et parler un peu plus de sa vie, j'ai reçu le don de le voir comme le Seigneur le voit. Et j'ai immédiatement ressenti davantage d'amour pour lui. Il a dit que ses parents étaient en train de divorcer et que sa mère n'avait pas seulement quitté l'église, mais qu'elle l'attaquait. Je pouvais voir sur son visage le chagrin et la confusion qu'il ressentait en racontant son histoire. Honnêtement, je ne me souviens plus de la pensée spirituelle qu'il a faite, mais je me souviens de ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'est venu à l'esprit la pensée suivante. Enlève tes chaussures, car je suis sur le point de te laisser pénétrer dans son cœur. Je compte sur toi pour être une influence féminine fidèle dans la vie de ce jeune homme, et j'ai besoin que tu l'aimes comme je l'aime. À partir de ce moment-là, j'ai changé. Mon cœur a changé. Je l'ai vu, je l'ai vraiment vu, comme un fils de Dieu, avec un potentiel divin, avec des dons spirituels et beaucoup à apporter à la classe. Son comportement n'a pas beaucoup changé au cours de ce semestre, mais j'avais changé. Et ce changement m'a permis d'avoir des expériences merveilleuses avec lui. Je serai éternellement reconnaissante pour ce jeune homme et pour l'occasion que le Seigneur m'a donnée de connaître un changement de cœur et de vision. Je m'émerveille continuellement de la capacité de notre Père Céleste à ne pas seulement connaître les besoins de chacun, mais aussi d'y répondre. Je sais qu'il me voit, me comprend et me connaît parfaitement. Et bien plus que cela, il m'aime parfaitement. Je sais aussi qu'il voit mon potentiel divin et qu'il sait qu'avec son aide, je deviendrai comme lui. Je sais qu'il pense la même chose de chacun d'entre vous et de chaque jeune homme et chaque jeune fille qui passe la porte de nos salles de classe. Il les voit parfaitement et il veut sauver chacun d'entre eux. Il voit au-delà de leur apparence et de leur comportement et choisit de se concentrer sur leurs qualités et leurs forces. Il attend de nous, instructeurs, que nous fassions de même. Cette année, nous présentons une nouvelle priorité intitulée « Voir chacun individuellement », dont l'objectif est que chacun de nous développe la qualité chrétienne de voir les besoins, les forces et le potentiel divin de chaque élève. Nous espérons que chacun d'entre nous développera ou améliorera sa capacité de voir au-delà des étiquettes et des apparences extérieures, apprendra à voir et traitera chaque élève comme étant quelqu'un d'unique avec un potentiel divin. Chaque élève qui entre dans nos salles de classe est dans une situation particulière, a des besoins et des difficultés uniques qui influencent son apprentissage. Il est important de garder à l'esprit que le séminaire ou l'institut ne représente qu'une partie de la vie des élèves. Une partie importante, certes, mais seulement une partie. Les rythmes d'apprentissage, les différences culturelles, les handicaps, les dépendances, le deuil et le chagrin ne sont que quelques-uns des facteurs pouvant influencer l'apprentissage des élèves. Les situations et les étiquettes ne définissent pas nos élèves, mais nous donnent l'occasion de les voir et de les aimer comme le Sauveur. Nous avons le privilège et la responsabilité sacrée de faire davantage pour aider les élèves dont le fardeau est lourd et qui viennent en cours parce qu'ils recherchent désespérément l'espérance offerte par le Sauveur de l'humanité. En méditant sur cette responsabilité sacrée de veiller sur chacun, j'ai beaucoup appris grâce aux enseignements de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. J'aimerais parler de trois leçons que j'ai apprises de ce chapitre. Leçon 1. Paul commence à parler du corps du Christ et de la valeur de chaque membre en mentionnant les dons spirituels. En étudiant les versets 1 à 11, je n'ai pu m'empêcher de me demander si l'un des éléments clés nous permettant de voir les gens comme le Sauveur les voit ne serait pas de reconnaître d'abord qu'ils ont des dons et des forces qui doivent être remarqués et utilisés. Lorsque nous considérons les élèves ainsi, nous reconnaissons et utilisons leurs forces au lieu de nous concentrer sur leurs défauts ou leurs comportements indésirables. Par moments, le comportement d'un élève ne reflète pas vraiment sa valeur. Une chose simple que l'instructeur peut commencer à mettre en pratique est de faire une pause, au lieu de réagir immédiatement aux remarques ou aux comportements d'un élève, puis d'envisager deux ou trois raisons possibles pour lesquelles l'élève répond ou agit de cette manière. Cela évitera à l'instructeur de réagir de façon impulsive et l'aidera à mieux reconnaître les dons spirituels de l'élève. En nous efforçant de nous souvenir du potentiel divin de chaque élève, nous devons aussi reconnaître que leur situation ou leurs difficultés peuvent freiner leur désir ou leur capacité d'apprendre. Cela nécessite que nous élaborions plus soigneusement des leçons qui invitent et inspirent les élèves à exercer leur libre arbitre afin d'utiliser leurs dons spirituels pour apprendre. Ce processus n'est pas facile, mais lorsque nous recherchons l'aide du Seigneur, il nous aide à savoir comment toucher ses enfants. J'ai découvert l'importance de reconnaître les dons spirituels grâce à une expérience que j'ai eue avec l'une de mes élèves qui ne montrait aucune motivation pour la lecture, que ce soit en classe ou en dehors. Cette jeune fille était très douée pour la musique, et lorsque j'ai prié pour savoir comment la toucher, le Seigneur m'a dit de faire une chose que je n'avais jamais essayée auparavant. Je lui ai donné le calendrier des leçons et lui ai demandé de trouver pour chaque leçon un cantique qu'on pourrait jouer en classe et qui aiderait à enseigner une des vérités du passage scripturaire. Cela nécessitait qu'elle lise en dehors du cours pour découvrir les vérités et trouver un cantique qui en parlait. Cela lui a aussi donné l'occasion de rendre témoignage aux autres élèves de ce que sa préparation lui a appris. En quelques semaines, j'ai remarqué que l'amour de cet élève pour le Sauveur se développait et que sa participation aux leçons s'améliorait. Elle est actuellement en mission à plein temps et ne se contente pas de lire les Écritures, mais les enseigne et rend son témoignage par la musique. Leçon 2. Paul enseigne que tous les membres ont de la valeur. Écoutez ces paroles au verset 14 à 18. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. J'aime la comparaison avec les différentes parties du corps remplissant des fonctions différentes, mais toutes essentielles. La main ne peut pas remplacer le pied, l'oreille ne peut pas remplacer l'œil. Chaque membre a un rôle unique et important, et chacun contribue à sa façon. Chacun est indispensable pour que le corps fonctionne parfaitement. Frère Holland a fait une autre comparaison pour enseigner cette même vérité. C'est par dessein divin que toutes les voix du cœur de Dieu ne sont pas identiques. C'est la diversité, soprani, alti, baryton et basse, qui enrichit la musique. Lorsque nous dénigrons notre nature unique ou essayons de nous conformer à des stéréotypes fictifs, nous perdons la richesse de la sonorité et du timbre que Dieu avait prévu lorsqu'il a créé un monde de diversité. Pour aider efficacement tous les élèves à se convertir tant qu'ils sont avec nous, nous devons croire que chacun a de la valeur et agir en conséquence. À la lumière de ces vérités, je demande à chacun d'entre vous de vous poser ces deux questions. D'abord, est-ce que je crois vraiment que chacun de mes élèves a de la valeur et peut apporter sa contribution? Ensuite, mes actes reflètent-ils ce que je crois? Je prie pour que le Seigneur nous aide à être davantage en accord avec cette croyance. Leçon 3. Paul enseigne que nous devons nous occuper de la même façon de chacun. Il dit, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Ce verset m'a permis de faire une introspection importante. Est-ce que je prends soin de chaque élève de la même manière? Est-ce que je me concentre davantage sur les élèves qui semblent faire une contribution plus évidente? Est-il plus facile pour moi d'aimer les élèves qui lèvent la main, qui ont toujours leurs écritures sorties, prêts à rendre témoignage et qui font des remarques pertinentes? Est-il plus facile pour moi d'aimer et de faire plus attention aux élèves qui m'aiment, qui aiment les autres élèves de la classe, qui arrivent à l'heure et qui ne sont absents qu'en cas de maladie grave? Les autres élèves remarquent-ils que je n'accorde pas mon attention à chaque élève de la même manière? En quoi cela influence-t-il l'atmosphère d'amour, de respect et la détermination des élèves de ma classe? Les élèves ont davantage tendance à voir et à traiter les autres comme le Sauveur le ferait lorsque nous leur en montrons l'exemple. Tandis que nous nous efforçons de représenter le Sauveur dans notre enseignement et de développer la capacité de voir avec ses yeux, nous devons nous souvenir que tous peuvent contribuer grâce à leur don spirituel. Chaque élève a de la valeur et nous devons nous occuper de chacun de la même façon. Je voudrais parler d'une autre leçon que j'ai apprise en méditant sur la nécessité de ce programme. À notre époque, l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Grand voleur d'identité, il cherche continuellement à dérober aux gens leur identité divine et leur lien avec le ciel. Nous devons développer notre capacité de voir avec les yeux du Sauveur afin d'aider les autres à reconnaître leur potentiel divin et à être fidèles au Seigneur dans un monde déroutant qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. L'une de mes héroïnes préférées des Écritures qui a admirablement montré cette capacité est Abigail. Dans l'Ancien Testament, elle est décrite comme une femme de bon sens et belle de figure. Elle est mariée à Nabal, homme dur et méchant dans ses actions. Après les insultes de Nabal et son refus d'aider David, ce dernier rassemble ses hommes dans l'intention de tuer Nabal et sa maison. Lorsque le serviteur de Nabal prévient Abigail du danger imminent, elle rassemble immédiatement des provisions et part à la rencontre de David. Lorsqu'elle voit David, elle se prosterne devant lui et, comme le Christ, assume la responsabilité d'une offense qu'elle n'a pas commise et implore son pardon. Que voit Abigail en Nabal qui la pousse à se faire son avocate? Que voit-elle en David qui la pousse à dire « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » À ce moment critique, pourquoi a-t-elle choisi de rappeler à David qui il était et les promesses que le Seigneur lui avait faites? Quelles ont été les répercussions de son acte de foi? J'aime la réponse de David lorsqu'il lui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. » Toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Je suis sûre qu'à ce moment-là, Abigail avait, comme l'a dit le président Packer, l'image du Christ gravée sur son visage. En fait, à ce moment-là, dans cette salle de classe, avec cette expression et cette inspiration, elle était lui et il était elle. Je témoigne qu'il nous est autant possible de voir les autres comme ils les voient et de les aider à voir ce qu'il y a de divin en eux. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour et la reconnaissance que j'éprouve pour les personnes qui m'ont donné l'exemple de cette qualité chrétienne. Avant tout, cet ange qui était ma mère a toujours vu mon potentiel divin et mes dons spirituels. Elle a toujours considéré que je pouvais apporter quelque chose, même lorsque je ne faisais pas, et a travaillé inlassablement pour m'aider à développer ce potentiel. J'ai eu des dirigeants de la prêtrise qui ont rempli ma vie d'espérance en me transmettant l'amour de notre Père Céleste pour moi et en me rappelant ma valeur. Mes propres instructeurs du séminaire et de l'Institut, dont beaucoup regardent cette émission aujourd'hui, ont vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ma carrière a été merveilleusement enrichie par les hommes et les femmes qui m'ont édifiée et conduite à lui grâce à l'exemple qu'ils ont donné en voyant chacun individuellement. Je suis éternellement reconnaissante de la façon dont le Seigneur continue de me montrer qu'il me voit comme quelqu'un de valeur. Il m'a donné des talents et des occasions de les utiliser pour aider les autres à devenir comme lui. Et je sais qu'il fait également cela pour chacun d'entre vous et chacun de nos élèves. Ces derniers mois, j'ai fait la très belle expérience d'étudier les Écritures en me concentrant sur la façon dont le Sauveur veille sur chacun et enseigne conformément à cette vision. Le fait d'apprendre directement de lui m'a transformé. Je vous invite à faire de même. Il est l'exemple parfait. Il y a d'innombrables exemples qui montrent comment il élaborait des expériences d'apprentissage et des leçons qui répondaient aux besoins individuels et aidaient les personnes qu'il enseignait à comprendre leur potentiel divin. Mes chers amis, je prie pour que notre Père Céleste continue d'augmenter notre capacité à voir comme lui, à aimer comme lui et à agir comme lui. Je prie pour que nous recherchions ce don et trouvions comment l'obtenir ou l'améliorer. Je prie pour que nous continuions de nous efforcer d'avoir l'image du Sauveur gravée sur notre visage lorsque nous nous tenons devant nos élèves chaque jour. Je sais que nous pouvons développer ce don en recherchant son aide. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Brother Webb.
Merci, Frère Webb, Frère Anderson et sœur Newbold, nous vous aimons et vos discours ont été une bénédiction pour nous. Nous allons maintenant écouter notre commissaire, Kim Clark, qui sera suivi de Donald Ahlstrom. Frère Clark a été soutenu comme 70 Autorité Générale le 4 avril 2015 et il est le commissaire du département d'éducation de l'Église depuis août 2015. Il a obtenu une licence et une maîtrise et un doctorat en économie de l'Université de Harvard. En 1978, il est devenu membre du corps enseignant de Harvard Business School et en 1995, il en est devenu le doyen. Il a servi à ce poste jusqu'à l'été 2005, où il a été nommé président de l'Université Brigham Young Idaho. Il est marié à Sue Lorraine Holt et ils ont 7 enfants. Donald Ahlstrom a été soutenu comme 70 Autorité Générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours le 1er avril 2000. Et en tant que membre de la présidence des 70, le 4 avril 2009. Il sert dans le bureau d'éducation de l'Église depuis 2012. Il a une licence en économie de l'Université Brigham Young. Au moment de son appel à plein temps pour l'Église, il était président de Ahlstrom Group Inc., une société de conseil d'expertise immobilière à Honolulu, Hawaï. Il est marié à Diane Clifton et ils ont 4 enfants. Après le discours de frère Ahlstrom, nous chanterons le cantique « Il vit mon Rédempteur ». Le numéro 72 dans le recueil de cantiques français. Puis Max Pendleton, instructeur du séminaire dans l'interrégion du nord de Davis, fera la prière de clôture. Frère Clark.
C'est une bénédiction de pouvoir s'adresser aux membres de la famille des séminaires et instituts du monde entier. Je vous aime beaucoup. Je suis reconnaissant de tout ce que vous faites et de ce que vous êtes. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse dans cette grande tâche que nous avons à accomplir. Mes chers frères et sœurs, c'est une très lourde tâche que d'instruire, de préparer, d'édifier et de fortifier la génération montante. Quand je pense à cette œuvre, j'ai un sentiment profond d'urgence. Les jeunes et les jeunes adultes de l'Église du Seigneur rencontrent de nombreuses difficultés et de nombreuses possibilités leur sont offertes. Le monde qui les entoure est rempli de technologies puissantes que l'on utilise pour faire beaucoup de bien et aussi un mal terrible. Un grand nombre de nos jeunes se trouvent dans des pays touchés par les guerres et les bruits de guerre, les actes de terreur, la corruption, la destruction de la famille, les troubles politiques et sociaux, le matérialisme et les ravages de la pauvreté, de la maladie et de la famine. Cependant, au milieu de toute cette agitation et ce tumulte, le Seigneur Jésus-Christ prépare son royaume et son peuple pour son retour. Il avance avec puissance sur toute la terre pour rassembler Israël dispersé, pour édifier son royaume et pour établir Sion. Il tend les bras pleins d'amour et de miséricorde aux jeunes et aux jeunes adultes de son Église, les invitant à recevoir personnellement son pouvoir guérisseur, habilitant et rédempteur. La grande guerre entre le bien et le mal qui a commencé dans le monde prémortel s'intensifie dans les derniers jours. Dans cette bataille, les jeunes et les jeunes adultes de la génération montante ne sont pas sur le front intérieur. Ils sont en première ligne et ils joueront un rôle de plus en plus déterminant dans la grande œuvre du Seigneur. C'est ce qui m'amène à vous. Vous êtes aussi en première ligne avec la génération montante. Lorsque je pense à vous et à tout ce que vous faites chaque jour pour toucher la vie de centaines de milliers de jeunes et de jeunes adultes de l'Église du Seigneur, je pense à la vision que Néphi a eue de notre époque. Et moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu, qu'il descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Néphi décrit un processus divin dont vous êtes un élément central. Lorsque vous penserez à ce que vous faites en tant qu'instructeur du séminaire et de l'Institut, j'espère que vous vous rappellerez de ce passage. Vous êtes des instruments entre les mains de Dieu dans un processus divin par lequel ces précieux enfants de l'Alliance acquièrent la justice et reçoivent son pouvoir et sa gloire. C'est ce que vous faites. Vous enseignez à tous ces jeunes l'Évangile de Jésus-Christ et vous les aidez à recevoir la puissance divine dans la prêtrise, dans le temple, dans la compagnie du Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, dans les alliances et les ordonnances sacrées. C'est le pouvoir de Dieu et il le donne à ses fils et à ses filles bien-aimées afin qu'ils puissent aimer, enseigner et servir avec foi et espérance en lui, accomplissant son œuvre tout au long de leur vie. Il est parfois difficile de relier la vision inspirante de Néphi à ce qui se passe dans votre classe de séminaire à 6h15 du matin ou dans une classe de l'Institut tard le soir, avec beaucoup d'étudiants fatigués. Je sais à quoi ressemblent des adolescents fatigués tôt le matin, et je sais aussi à quoi ressemblent des étudiants épuisés. Mais j'ai vu ce qui arrive à ces adolescents et à ces étudiants lorsqu'un instructeur qui les aime les instruit avec l'Esprit du Seigneur. J'ai vu ce qui se produit dans leur cœur et dans leur âme lorsque cet instructeur leur dévoile le pouvoir des Écritures et les aide à approfondir leur apprentissage à la manière du Seigneur. Je le sais parce que c'est ce qui est arrivé à tous mes enfants. Et c'est ce qui est en train d'arriver à mes petits-enfants. Les jeunes et les jeunes adultes que vous instruisez sont incroyables. Mais il faut que beaucoup plus d'entre eux reçoivent les bénédictions de la prêtrise et du temple, partent en mission, se marient au temple, créent une famille éternelle, serve le Seigneur dans son royaume et soit une lumière pour le monde. Cela signifie que vous devez continuer de vous améliorer dans ce que vous faites. Le Seigneur a besoin que vous soyez encore plus puissant et encore plus efficace dans cette grande œuvre. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de quelques réflexions qui, je l'espère, vous aideront à atteindre cet objectif divin. Mon message est simple. Nous devons faire plus pour aider les jeunes et les jeunes adultes de l'Église à connaître la joie, une joie authentique et spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que le meilleur moyen d'y parvenir est l'apprentissage approfondi de la doctrine du Christ à la manière du Seigneur. Je vous témoigne que l'apprentissage approfondi de la doctrine du Christ apporte la joie dans le Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné, mes chers frères et sœurs, la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ et sur son Évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source de toute joie. C'est le genre de joie que nos jeunes doivent ressentir. Elle les protège du mal, les pousse à être justes, nourrit leur désir d'avoir toujours le Saint-Esprit avec eux et les rapproche du Seigneur. Le Sauveur nous a donné un merveilleux modèle à suivre dans le Livre de Mormon pour aider nos élèves à trouver la joie en lui. Ce sont ces mots. C'est pourquoi élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez. Ce que vous m'avez vu faire, voici, vous voyez que j'ai prié le Père et vous en avez tous été témoins. Et vous voyez que j'ai commandé qu'aucun de vous ne s'en aille, mais j'ai plutôt commandé que vous veniez à moi afin de toucher et de voir. Ainsi agirez-vous envers le monde. Quand le Sauveur est apparu au peuple,
au temple du pays d'abondance. Il l'a aimé, lui a enseigné sa doctrine et l'a béni. Le peuple a ressenti une grande joie. Dans ce passage, le Sauveur vous appelle à venir à lui et, par le pouvoir du Saint-Esprit, à le voir œuvrer, à ressentir son amour et à connaître sa joie. Puis, il vous commande de transmettre ce que vous avez vu et ressenti à vos élèves. Aimez-les, enseignez-leur sa doctrine, invitez-les à aller à lui et à ressentir sa joie. Si vous en avez en vous l'amour, la doctrine, la lumière et la joie de Jésus-Christ, vous pouvez les inspirer et les encourager à rechercher à avoir leurs propres expériences spirituelles avec le Seigneur. C'est l'apprentissage approfondi de la doctrine du Christ qui apporte la joie et il doit être fait à la manière du Seigneur. L'apprentissage approfondi est celui de l'âme tout entière, la pensée, le cœur, le corps et l'esprit immortel. Il augmente la capacité des élèves de faire trois choses. La première est de savoir et comprendre. C'est la connaissance de l'esprit et du cœur. Lorsqu'on l'applique à la foi en Jésus-Christ, par exemple, les élèves apprennent que la foi est un principe d'action et de pouvoir. Grâce au témoignage de l'esprit, ils ressentent la véracité de ce principe et commencent à voir plus clairement, à avoir un désir plus profond et ainsi à comprendre plus complètement dans leur cœur la manière dont ce principe fonctionne dans leur vie. Le second, agir efficacement et de manière juste. Les élèves apprennent à mettre en application le principe de la foi en Jésus-Christ dans leur vie et agissent vraiment. Par exemple, ils peuvent décider de faire preuve de foi au Sauveur pour avoir le courage d'inviter un ami à lire le Livre de Mormon. En agissant avec foi, ils augmentent leur confiance dans le Seigneur qui les bénit en leur donnant une plus grande foi en retour. Troisièmement, devenir plus semblable à notre Père Céleste. C'est un processus qui amène l'élève à changer son caractère et sa nature même. Il se produit grâce au pouvoir rédempteur et habilitant de Jésus-Christ. Quand on l'applique au principe de la foi au Sauveur, cela signifie qu'un élève devient une personne de plus en plus fidèle. La foi en Christ devient un trait de son caractère et fait partie de son identité lorsqu'il continue invariablement d'acquérir une plus grande connaissance et compréhension de la foi en Christ, d'agir avec foi en lui pour faire sa volonté et de rechercher ses dons et ses bénédictions pour devenir semblable à lui. Ces trois facettes de l'apprentissage approfondi sont liées les unes aux autres et se renforcent mutuellement. En devenant une personne fidèle, un élève augmente sa capacité de savoir et de comprendre. Une compréhension plus profonde pousse une personne à agir plus efficacement, ce qui lui permet en retour d'acquérir de nouvelles connaissances et une personnalité plus forte. On trouve une grande joie dans chaque aspect de l'apprentissage approfondi, la joie d'obtenir une nouvelle compréhension, la joie d'agir avec justice, la joie de devenir plus semblable à notre Père et à son Fils. L'apprentissage approfondi à la manière du Seigneur. Trois invitations. L'apprentissage approfondi à la manière du Seigneur est simple mais puissant. Voici comment le Seigneur décrit l'apprentissage à sa manière. Si vous avez l'œil fixé uniquement sur ma gloire, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Préparez-vous et sanctifiez-vous. Enseignez-vous les uns aux autres la doctrine du royaume. Enseignez diligemment et ma grâce vous accompagnera. Cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres les paroles de sagesse. Cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps. Qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent, afin que tous soient édifiés par tous. Par-dessus tout, revêtez-vous du lien de la charité. Ces merveilleux passages de la section 88 des Doctrines et Alliances identifient trois éléments qui sont liés entre eux et qui renforcent l'apprentissage approfondi à la manière du Seigneur. Premièrement, étudier, rechercher, se préparer et obéir diligemment. Le second, se rassembler pour s'instruire les uns les autres dans les liens de la charité, guidés par un instructeur inspiré, accompagné par la grâce de Jésus-Christ. Le troisième, recevoir la révélation, l'inspiration et les autres dons spirituels qui viennent par le pouvoir du Saint-Esprit. Selon la manière du Seigneur, l'instructeur joue un rôle actif et inspiré pour aider les élèves à prendre part à tous les aspects de l'apprentissage approfondi. Deux choses sont essentielles. Vous devez avoir le Saint-Esprit avec vous et vous devez aimer vos élèves. Vous avez à votre disposition une documentation merveilleuse, le manuel enseignement et apprentissage de l'Évangile, pour vous aider à enseigner de façon à ce que vos élèves apprennent à la manière du Seigneur. Je vais donc vous donner une tâche. Je veux que vous lisiez et étudiez ce manuel en gardant à l'esprit l'apprentissage approfondi, en particulier la doctrine du Christ, qui apporte la joie. Une fois que vous comprendrez cet apprentissage approfondi, car la joie est votre objectif, cela changera la manière dont vous mettez en pratique les principes puissants exposés dans ce manuel. Voici trois exemples simples, parmi tant d'autres. Vous demanderez à vos élèves de se préparer à s'instruire les uns les autres. Vous aiderez en priorité vos élèves à acquérir les vertus chrétiennes. Troisièmement, vous ferez de la joie un objectif commun dans votre salle de classe et les élèves rendront régulièrement témoignage de cette joie. Mes chers frères et sœurs, je sais que vous faites déjà de nombreuses choses incroyables et merveilleuses pour aider vos élèves à faire entrer l'Évangile de Jésus-Christ profondément dans leur cœur et à éprouver de la joie en lui. Je connais, tout comme le Seigneur, vos sacrifices et votre dévouement. J'aimerais terminer aujourd'hui par trois invitations. Je sais que si vous agissez selon ces invitations, vous aiderez vos élèves à avoir un apprentissage encore plus approfondi à la manière du Seigneur et à connaître une joie encore plus grande en lui. Première invitation, identité et raison d'être éternelle. Je vous invite à aider vos élèves à découvrir leur véritable identité. Aidez-les à voir, à sentir et à savoir qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu, ses fils et ses filles bien-aimés. Aidez-les à comprendre le sens et les implications du document « La famille, déclaration au monde », dans lequel nous lisons que chacun de vos élèves a une nature et une destinée divine, et une identité et une raison d'être éternelle. Aidez-les à ressentir profondément dans leur cœur qu'ils sont des êtres spirituels vivant une expérience mortelle. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a souffert et est mort pour eux, afin qu'ils puissent progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. C'est le plan de notre Père Céleste pour eux. S'il vous plaît, aidez-les à voir la réalité de son plan. Enseignez-leur qu'ils sont nés de parents célestes pour apprendre, progresser et devenir semblables à eux. L'apprentissage est au centre de l'objectif de la vie prémortelle et mortelle et de leur salut éternel. Ils doivent découvrir les choses de Dieu et les choses du monde afin d'accomplir les desseins de Dieu dans leur vie. Aidez-les à voir que l'apprentissage est essentiel dans le plan éternel de Dieu et par conséquent, qu'il est essentiel à leur destinée divine et à leur raison d'être éternelle. Deuxième invitation, l'apprentissage approfondi à la manière du Seigneur. Je vous invite à aider vos élèves à apprendre à la manière du Seigneur. Vous le ferez en partie grâce à votre exemple, d'une manière puissante. La manière dont vous enseignez est ce que vous leur enseignez au sujet de l'apprentissage à la manière du Seigneur. Si vous créez un cadre propice pour qu'ils apprennent à la manière du Seigneur, ils apprendront à sa manière. Dans le cas contraire, ils n'apprendront pas. J'espère que vous enseignerez à vos élèves à apprendre à la manière du Seigneur par votre exemple. Mais j'espère aussi que vous leur enseignerez sa manière directement et consciemment. Le manuel Maîtrise de la doctrine vous donne une occasion merveilleuse d'y parvenir dans son chapitre « Acquérir la connaissance spirituelle » dont les principes enseignent exactement comment apprendre à la manière du Seigneur. En enseignant ces principes tout au long de l'année, vous leur enseignerez l'apprentissage à la manière du Seigneur. Cet enseignement peut aussi se faire dans vos classes d'institut. S'il vous plaît, aidez vos élèves à comprendre que la manière du Seigneur s'applique à tout ce qu'ils étudient. Les méthodes particulières d'enseignement qui seront utilisées dans leur classe d'enseignement secondaire ou supérieur dépendront des enseignants qu'ils auront, mais ils peuvent toujours s'engager activement et diligemment dans leurs écritures et avoir la compagnie du Saint-Esprit. S'il vous plaît, frères et sœurs, invitez vos élèves à avoir le Saint-Esprit avec eux à l'école. Troisième invitation maintenant, repentir et apprentissage. Je vous invite à enseigner à vos élèves que le repentir est au centre de l'apprentissage approfondi. Le repentir est le processus du Seigneur pour apprendre personnellement, progresser spirituellement et devenir de plus en plus semblables à lui. Vos élèves apprennent à la manière du Seigneur grâce au pouvoir rédempteur et habilitant de Jésus-Christ qui agit dans leur vie, leur donnant accès à sa miséricorde et à sa grâce. S'il vous plaît, aidez vos élèves à comprendre que le repentir est le processus divin par lequel ils peuvent devenir plus semblables au Sauveur en tout temps. Parfois, ils devront arrêter de faire quelque chose pour se repentir. Parfois, ils devront commencer à faire quelque chose. S'il vous plaît, aidez-les à comprendre que pour se repentir, il ne suffit pas de dire au Seigneur et à leur évêque qu'ils ont fait quelque chose de mal. Péché, c'est se détourner du Seigneur. Se repentir, c'est retourner vers lui. Le repentir exige un changement de cœur et d'état d'esprit, un changement de vie adapté à la situation personnelle des étudiants. Mais enseignez-leur aussi que le repentir peut être une source continuelle de bénédiction. C'est la façon dont le Seigneur les aide à faire mieux et à être meilleurs tout au long de leur vie. Cela leur demande de changer et de progresser. Et cela signifie qu'ils doivent se repentir, se tourner plus complètement vers le Sauveur et lui donner davantage leur cœur en tout temps. C'est un processus de toute une vie. C'est essentiel pour un apprentissage approfondi. Je vous fais cette promesse maintenant. Si vous enseignez à vos élèves leur véritable identité, à apprendre à la manière du Seigneur et le principe divin d'y repentir, ils apprendront d'une manière approfondie la doctrine du Christ, leur foi en lui et leur amour pour lui grandiront. Et ils auront la joie dans le Seigneur. Vos élèves et vous verrez la réalisation de cette promesse merveilleuse du Seigneur. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. Je sais que cette promesse est vraie. Je vous témoigne que Dieu, notre Père, vit. Jésus est le Christ. Il vit. C'est leur œuvre sainte. J'en témoigne et je vous exprime mon amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et chères sœurs, je suis ravi de participer aujourd'hui à cette diffusion avec vous, qui dirigez et enseignez nos séminaires et instituts de religion et vos conjoints bien-aimés. Nous avons rencontré beaucoup d'entre vous aux quatre coins du monde et vous êtes remarquables. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'Église n'emploie que des personnes qualifiées. digne de détenir une recommandation à l'usage du temple, dont la capacité à instruire est avérée. Et elles ont été recommandées et approuvées à différents niveaux, notamment par la commission de l'enseignement de l'Église. Vous qui êtes appelés, vous n'avez pas subi le même examen approfondi que les enseignants salariés, mais je sais par expérience que les dirigeants locaux appellent les meilleurs pour enseigner le séminaire et l'Institut. Deuxièmement, vous êtes immergé dans la doctrine du Christ, que Néphi déclare être la seule et vraie doctrine du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu sans fin. L'enseignement de cette doctrine offre un encouragement continuel à la vivre. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes si remarquable. Ne changez rien. Le séminaire est une grande famille. Il y a 32 ans, j'ai été appelé président du Pieu de Honolulu à Hawaï. Le plus jeune de nos quatre enfants avait 18 mois et l'aîné en avait 11. J'avais un métier très astreignant et il semblait que nous avions atteint nos limites. C'est alors que les coordinateurs du séminaire pour notre Pieu m'ont rencontré et ont demandé, avec un certain manque d'assurance en raison de notre situation familiale, « Pensez-vous que serait-il possible que Sœur Alstrom puisse enseigner le séminaire ?» Eh bien, nous n'étions pas habitués à refuser un appel. Alors, nous avons pris une longue respiration et avons répondu « Bien sûr ». C'est ainsi que commença pour notre famille une période éprouvante, mais extrêmement enrichissante. Ma femme, Diane, se levait à 4h30 tous les jours de la semaine pour être prête pour le séminaire à 6h. Je devais aussi réveiller les enfants pour les aider à se laver et à s'habiller, préparer le petit déjeuner et mettre tout en ordre, afin que lorsque Diane rentrait à 7h, je puisse repartir au travail et qu'elle puisse emmener les plus grands à l'école. Cela a été notre rythme de vie pendant 8 ans, jusqu'à ce que Diane soit appelée présidente des jeunes filles. Au bout de 5 ans, le coordonnateur du séminaire a frappé de nouveau à notre porte et a demandé « Nous avons une classe d'élèves en dernière année qui est très difficile. Est-ce que Sœur Alstrom pourrait de nouveau enseigner le séminaire ?» C'est ainsi que 3 années se sont ajoutées aux 8, et il a fallu un appel du président Hinckley pour qu'elle soit relevée. J'ai été appelé comme autorité générale et ma première affectation a été le Japon. Alors, vous qui êtes appelé à instruire, faites attention lorsque vous souhaitez votre relève. Vous ne savez pas où cela pourrait vous mener. Nous gardons un très bon souvenir de cette période exigeante, intense et géniale. Et nous éprouvons de la gratitude en y repensant. Diane a absolument adoré ses élèves du séminaire. Et il l'adorait. Elle a aussi enseigné le séminaire à chacun de nos enfants, nièces et neveux, dont l'un est maintenant directeur de l'Institut et assiste, je l'espère, à cette diffusion. En plus de cela, grâce à cet enseignement intense, Diane a approfondi sa connaissance de l'Évangile et a renforcé son témoignage. Et c'est une véritable bénédiction pour ma famille et moi. Cela m'a également permis d'être avec nos enfants durant le seul moment de la journée où j'étais entièrement disponible, c'est-à-dire les heures matinales des jours de la semaine. Cela a été une grande bénédiction pour moi et je pense pour eux. Vous voyez, certains de nos plus grands fardeaux deviennent nos plus grandes bénédictions. Je suis heureux de me trouver aujourd'hui en compagnie de Colette, que j'estime énormément. En qualité de membre de la commission de l'enseignement de l'Église et du comité exécutif de la commission, je rencontre 2 fois par mois Kim Clark, notre merveilleux commissaire à l'enseignement, et Chad Webb, administrateur exceptionnel des séminaires et instituts de religion. Vous qui êtes employé par les séminaires et instituts ou qui avez été appelé à y servir, vous êtes admirablement dirigé. Comme la plupart d'entre vous le sait déjà, la commission de l'enseignement de l'Église est présidée par Thomas Monson et a pour membres Henri Eyring et Dieter Urdorf. Dallin Oakes en fait également partie et il préside le comité exécutif. On compte aussi parmi les membres de la commission et du comité exécutif Jeffrey Holland, Jean Bingham et Bonnie Oscarson. Je suis continuellement impressionné de la priorité que l'Église donne à l'instruction et par les ressources qui sont consacrées. J'aimerais maintenant vous faire part de certaines réflexions, à vous qui jouez un rôle si essentiel dans l'éducation spirituelle de la jeunesse de l'Église. J'ai déjà mentionné l'importante doctrine du Christ. Comment l'Église aide-t-elle ses membres à comprendre et à vivre cette doctrine ? Une autre façon de poser la question est de demander quelles sont les priorités apostoliques de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'une des façons de découvrir ces priorités est de comprendre l'œuvre du salut. On trouve la définition la plus succincte de l'œuvre du salut dans le manuel 2. N'oubliez pas que le manuel 2 est approuvé par la première présidence et le collège des 12 apôtres. Je cite, « Les membres de l'Église de Jésus-Christ sont envoyés travailler dans sa vigne au salut de l'âme des hommes. » Cette œuvre du salut comprend l'œuvre missionnaire par les membres, le maintien des convertis dans l'Église, la remotivation des membres non pratiquants, l'œuvre du temple et de l'histoire familiale, ainsi que l'enseignement de l'Évangile. Le manuel 2 nous donne un autre aperçu de ces priorités dans la section intitulée Objectif de l'Église. Je cite, « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été organisée par Dieu pour qu'elle aide à accomplir son œuvre qui est de réaliser le salut et l'exaltation de ses enfants. L'Église invite tout le monde à aller au Christ et à être rendu parfait en lui. L'invitation à aller au Christ concerne toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivront jamais sur la terre. » Voici ce que dit le manuel un peu plus loin. Dans ses efforts pour réaliser son objectif d'aider les personnes et les familles à se qualifier pour l'exaltation, l'Église se concentre sur les responsabilités que Dieu lui a données. Aider les membres à vivre l'Évangile de Jésus-Christ, rassembler Israël par l'œuvre missionnaire, prendre soin des pauvres et des nécessiteux, et rendre possible le salut des morts en construisant des temples et en accomplissant des ordonnances par procuration. Ainsi, l'œuvre du salut et ses responsabilités que Dieu a données sont essentiellement les mêmes et devraient guider tout ce que nous faisons dans l'Église, notamment et peut-être tout spécialement, l'enseignement de nos jeunes. En fin de compte, tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, notre famille et notre appel actuel est d'enseigner l'œuvre du salut et les responsabilités que Dieu a données afin de favoriser la conversion des fils et des filles de Dieu. Cela revient à enseigner comme à Aaron et ses frères, Amon, Omner et Imni, c'est-à-dire enseigner selon l'esprit de révélation et de prophétie et le pouvoir de Dieu, afin que tous ceux qui croient en votre prédication soient convertis au Seigneur et n'apostasient jamais. Comme la première présidence l'a dit aux parents et aux dirigeants des jeunes, vous êtes appelés par le Seigneur à aider les jeunes à se convertir à l'Évangile. En enseignant à la manière du Sauveur, nous pouvons être sûrs que nos jeunes apprendront de manière plus approfondie et cela les conduira à la conversion. Ainsi, l'instruction de nos jeunes ne consiste pas uniquement à leur enseigner l'histoire. Nous devons leur enseigner la doctrine qui les incitera à agir. Notre rôle est d'être un instrument entre les mains de Dieu, afin qu'ils ne se contentent pas d'entendre, mais qu'ils puissent ressentir et ensuite agir. Notre rôle est de nous instruire et de nous édifier les uns les autres afin de nous engager à agir en toute sainteté. Notre rôle est d'enseigner la foi qui produit le repentir. Quel est le meilleur moyen pour dispenser ce genre d'enseignement? Le modèle établi dans l'Église du Christ est de s'engager totalement dans la pratique religieuse publique, familiale et personnelle. Je vais développer chacun de ces éléments. La pratique religieuse publique
consiste à s'assembler en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs et communauté de saints. Ces réunions peuvent être de grande envergure, comme les conférences de pieux, ou la conférence générale, ou plus réduites, comme les réunions des collèges, des jeunes filles, ou de la société de secours, ou les classes du séminaire ou de l'institut. Notre assemblée d'aujourd'hui est un exemple de pratique religieuse publique. Dans chacune de ces réunions, nous prions, nous enseignons, nous témoignons et nous édifions. Tout cela dans le but d'avoir une meilleure compréhension de notre Père céleste, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Nous avons ensuite la responsabilité de transformer cette connaissance sans cesse croissante en sagesse, afin de réduire continuellement le fossé entre ce que nous savons et notre façon de vivre. Le culte au temple est une forme sacrée de pratique religieuse publique, parce qu'il implique de manière directe les ordonnances et les alliances qui nous connectent à la divinité. Quels sont vos liens avec le temple et avec vos alliances? Participez-vous régulièrement à cette forme sainte de pratique religieuse publique pour renforcer votre connaissance et votre sagesse? Aidez-vous les personnes que vous instruisez à se relier au temple? Encouragez-vous nos jeunes à être dignes de détenir une recommandation à usage limité pour entrer au temple et à s'en servir lorsque les distances le permettent? Participez à l'œuvre du salut en recherchant les noms de ses ancêtres et en allant au temple pour être baptisé et confirmé pour eux, offre des occasions d'être guidé spirituellement. La plus importante des réunions de pratique religieuse publique en dehors du temple est la réunion de Sainte-Cène. En plus de tout ce que l'on fait habituellement au cours d'une réunion spirituelle de l'Église, ce service concentre sur l'ordonnance de la Sainte-Cène. Au début et à la fin de la réunion, et au moment de se préparer à prendre la Sainte-Cène, nous chantons et nous prions. Participons-nous pleinement? Notre esprit et notre cœur sont-ils présents? Nos téléphones portables sont-ils éteints ou envoyons-nous des messages ou des tweets ou, pour les plus âgés que nous sommes, des courriels pendant l'ordonnance ou tout autre moment de la réunion? Lorsque les orateurs parlent, notamment lorsqu'ils ne sont pas des orateurs hors pair, nous en désintéressons-nous orgueilleusement en se disant « je connais déjà tout cela ». Si nous sommes coupables d'une de ces fautes, nous réduisons et peut-être même éliminons la capacité de l'esprit de communiquer avec nous. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi la réunion de Sainte-Cène et les autres réunions de l'Église ne nous édifient pas. La pratique religieuse publique est une magnifique occasion pour que tous, y compris les jeunes, reçoivent du soutien sur le chemin de la conversion. Maintenant, la pratique religieuse familiale. La pratique religieuse publique doit favoriser la pratique religieuse familiale. En 1999, la première présidence a recommandé aux parents et aux enfants d'accorder toute la priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à l'étude et à l'enseignement de l'Évangile et aux activités familiales saines. On ne doit pas permettre à d'autres impératifs ou activités, aussi légitimes et justifiées soient-ils, de prendre le pas sur les devoirs confiés par Dieu dont seuls les parents et la famille peuvent s'acquitter correctement. Au cours des années, ces mêmes principes ont clairement été répétés de différentes manières par de nombreux dirigeants de l'Église. Nous vivons dans un monde affairé. Au cours de mes voyages dans l'Église, il m'arrive parfois de demander en privé aux dirigeants locaux, qui sont de bons membres de l'Église, « Faites-vous la prière en famille et la soirée familiale? Étudiez-vous l'Évangile en famille ?» Je reçois souvent un regard embarrassé, l'explication « Nous sommes tellement pris, les activités scolaires et extrascolaires, les cours de musique ou autres, les activités sociales et les obligations à l'Église occupent presque entièrement nos enfants. » Et mon épouse et moi sommes retenus par le travail, l'Église et d'autres engagements. Nous sommes rarement ensemble en famille. La recommandation de la première présidence laisse entendre que si nous sommes tellement occupés à faire de bonnes choses, que nous en négligeons les choses essentielles, nous devons trouver une solution. Lorsque les enfants sont élevés par des parents convertis qui ont établi un modèle de pratique religieuse familiale, ils ont plus de chances de ressentir l'influence du Saint-Esprit, tandis qu'ils sont jeunes, et de suivre cet exemple juste toute leur vie. Alors, notre enseignement à l'Église prend la place qui lui revient comme soutien de l'enseignement qui est donné au foyer. En plus d'avoir des pratiques religieuses constantes et efficaces dans leur propre famille, les enseignants des jeunes doivent, de la façon la plus appropriée et avec tact, encourager les pratiques religieuses dans la famille de leurs élèves. Certains élèves proviennent d'une famille où de telles pratiques sont déjà en place, et vous pouvez simplement vous tenir sur la ligne de touche et applaudir en silence. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, pour tout un tas de raisons. De l'élève qui est le seul membre de l'Église dans sa famille ou le seul membre pratiquant, à celui dont la famille assiste très régulièrement aux réunions de l'Église, mais n'a pas saisi la vision de l'importance des pratiques religieuses familiales. Sans s'attribuer l'autorité et la responsabilité des dirigeants ecclésiastiques et des parents, montrer et enseigner l'exemple d'un modèle juste. Aider nos jeunes à découvrir comment ils peuvent être une source d'inspiration pour leur famille, en prenant l'habitude d'avoir des pratiques religieuses familiales constantes. Maintenant, la pratique religieuse personnelle. Au bout du compte, la conversion est une affaire personnelle. La pratique religieuse publique nous conduit à la pratique religieuse familiale, qui nous conduit à la pratique religieuse personnelle. Cela comprend la prière personnelle, l'étude personnelle de l'Évangile et la méditation sur notre relation personnelle avec la divinité. Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui, et loin des pensées et des intentions de son cœur? Todd Christofferson a dit « Il est important d'avoir le sens du sacré, pour la simple et bonne raison que si l'on n'apprécie pas les choses saintes, on les perd. L'absence de sentiment de révérence engendrera une attitude de plus en plus désinvolte et une conduite de plus en plus relâchée. On perdra l'ancrage que peuvent fournir les alliances avec Dieu. Le sentiment de responsabilité envers Dieu diminuera, puis sera oublié. Ensuite, on ne se souciera que de son propre confort et de satisfaire ses appétits incontrôlés. Finalement, on en viendra à mépriser les choses sacrées, et même Dieu, et puis à se mépriser soi-même. Nous avons compris que le meilleur indicateur de la réussite spirituelle, mesuré par le fait d'être ordonné à la prêtrise de Melchisédek, de recevoir sa dotation, de faire une mission, de se marier au temple et d'élever une famille juste, pour un jeune homme ou une jeune fille, et d'avoir des expériences spirituelles dans sa jeunesse, et de ressentir l'influence du Saint-Esprit. C'est plus qu'être pratiquant à l'Église, c'est pratiquer l'Évangile. Dans toutes les classes que vous instruisez, dans toutes les discussions que vous dirigez, dans toutes les conversations informelles, votre objectif est que le Saint-Esprit soit le véritable enseignant. Comme le Sauveur l'a enseigné, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a la capacité de personnaliser le message afin que chacun soit éclairé par l'Esprit de vérité. En enseignant l'œuvre du salut et les responsabilités que Dieu a données, nous le faisons de façon édifiante et inspirante, une façon qui élève et conduit les personnes que nous instruisons à renforcer leur foi en notre Père céleste, en Jésus-Christ et en son expiation. À vous, merveilleux enseignants religieux, nous disons merci. 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 Au nom des dirigeants de l'Église, merci. Que votre vie soit empreinte de dignité personnelle. Prenez soin de votre famille et servez le Seigneur, en prenant tout particulièrement soin de la précieuse génération montante. En étant engagé dans l'œuvre du salut et les responsabilités que Dieu a données, sous la direction et les clés des apôtres, nous serons élevés et motivés. J'affirme la grandeur de notre héritage divin et de notre capacité à recevoir la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Je témoigne du grand Jéhovah, nommé Jésus à sa naissance, qui porte le titre de Jésus-Christ, loin. Je témoigne de son expiation incomparable, qui permet à chacun de nous et à ceux que nous instruisons de vaincre le monde et de traverser ici-bas les situations les plus difficiles avec l'espérance d'une pureté parfaite. Avec les bénédictions de l'Évangile rétabli et du rétablissement de l'Église, nous avons tout ce qui est nécessaire pour nous aider à entendre, ressentir et agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu nous assembler aujourd'hui afin de pouvoir être enseignés et devenir des hommes et des femmes de Dieu. Nous te remercions pour ces opportunités de notre vie aujourd'hui de pouvoir enseigner ces jeunes merveilleux à propos de cet Évangile et de cette Église. Et nous te demandons de nous aider afin de pouvoir faire tout ce que nous pouvons pour les renforcer, leur enseigner la doctrine du Livre de Mormon et des autres Écritures. Aide-nous à veiller sur chacun individuellement. Merci pour la merveilleuse musique que nous avons entendue aujourd'hui, pour les témoignages et tout particulièrement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous à faire ce que nous devons faire au nom de Jésus-Christ. Amen.